Bonjour, bienvenue dans le Washington Briefing. Je suis Antoine Lard, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Dans quelques jours, le 20 janvier, Donald Trump sera sur les marches du Capitole, main sur la Bible, pour prêter serment, comme il y a 8 ans.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Aujourd'hui avec Thierry Arnaud, éditorialiste international de BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, on va tout vous dire sur cette cérémonie d'investiture et on va faire aussi un crochet par le Sénat qui auditionne en ce moment les futurs membres de la prochaine administration. Peut-être un premier test pour Donald Trump. Salut Thierry.
Salut Antoine.
Bon alors ça y est, on y est presque, l'investiture le 20 janvier. Alors avant de parler de ce qui va se passer lundi, je voulais qu'on parle un petit peu de ce qui est en train de se jouer en ce moment au Sénat. Il y a tous les ministres ou tous ceux qui ont été nommés à des postes de ministres qui passent devant le Sénat. On rappelle à ceux qui nous écoutent que le Sénat a son mot à dire sur les nominations. Ils doivent donner leur feu vert via un vote. Normalement, c'est une formalité puisque les républicains sont majoritaires au Sénat. Sauf que dans le casting de Trump, on en a déjà parlé, il y a plusieurs personnalités qui posent un peu problème. Et justement, hier, les auditions au Sénat ont commencé avec celui qui a été nommé à la tête du Pentagone, Pete Hegseth, qui est accusé notamment d'agression sexuelle, d'abus de boisson, de détournement de fonds également. Donc hier, il a été passé sur le grill, comme on dit, pendant plus de 4 heures. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce qu'il s'en est plutôt bien tiré d'après toi ? Je sais qu'il s'était énormément préparé, avec notamment des mises en situation pour pouvoir répondre à toutes les questions.
Oui, écoute, moi j'en retiens deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il s'en est plutôt bien tiré parce qu'il était prêt et parce que, c'est la deuxième chose, ça reste assez prévisible, quoi. C'était vraiment un jeu de rôle assez caricatural. Lui-même était dans une forme de caricature du macho ancien soldat qui fait ses pompes avant de venir, puisqu'on est allé jusqu'à discuter de son activité physique dans les heures précédant l'audition.
5 répétitions de 47 pompes. J'imagine que 47, référence au 47e président américain, peut-être.
Exactement. Voilà. C'est évidemment pour ça qu'il a choisi ce chiffre, bien sûr. Et puis, voilà, des échanges où il est couvert de compliments par les républicains et évidemment attaqué par les démocrates. Tout ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, c'est pas très très surprenant. Voilà, je pense qu'il est, malgré toutes les controverses que tu évoquais, sans doute relativement bien parti pour décrocher l'approbation du Sénat et sa personnalité. Rappelons donc que c'est un ancien soldat qui a servi à l'étranger et qui, dans une période plus récente, était un présentateur de la chaîne Fox News. Une grande gueule trumpiste, pour dire les choses assez clairement. Et tout ça mis ensemble en fait une sorte de personnalité idéale avec voilà, une belle gueule d'acteur de cinéma, les tatouages qui vont bien, les muscles qui sont bien montrés sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça véhicule une image un peu masculiniste, conservatrice, patriote, qui sied parfaitement au message que Trump veut envoyer, singulièrement bien sûr en le nommant à la tête du Pentagone.
Et il est resté droit dans ses bottes d'ailleurs sur le fond, que ce soit sur les politiques d'inclusion des minorités au sein de l'armée, il y est opposé. Il a aussi répondu sur la place des femmes.
Ouais, de manière assez habile d'ailleurs, parce que sur la place des femmes, en fait, il dit « moi j'ai rien contre les femmes ». Ce qu'on ne peut pas changer, c'est la manière dont on combat, donc typiquement le poids des armes qu'il faut porter, le poids du pactage, du sac à dos, etc. Voilà. Donc mon objection n'est pas une objection, dit-il, au fait que les femmes servent en tant que combattantes, mais elle consiste à dire que on ne peut pas avoir des équipements à géométrie variable, donc tous ceux qui sont capables d'assumer la lourdeur de la tâche dans tous les sens du terme, très bien. Et donc voilà, il a un petit peu, tu vois, corrigé en ce sens-là sa réponse et sa prise de position, et de manière, je l'ai trouvé, plutôt à droite.
Et du coup, à la sortie, l'opinion générale, c'est qu'il aura les votes sans difficulté et qu'il sera confirmé dans son poste. Tu disais effectivement, c'est un peu un côté jeu de rôle avec les démocrates qui l'attaquent, les républicains qui lui pose des questions complaisantes ou même qui le couvre parfois de louanges. Un des arguments, c'était de dire que si la gauche le critique, c'est parce qu'il fait pas partie de l'establishment et que l'élite se sent menacée. Le discours un peu classique, un peu des trumpistes. Globalement, d'ailleurs, ces auditions. C'est plutôt toujours une formalité. J'ai vu une statistique ce matin. Dans l'histoire américaine, il n'y a que 3% des candidats qui se sont fait recaler au Sénat. Et quand le parti présidentiel a la majorité au Sénat, la dernière fois qu'il y a eu des recalés, c'était en 1925, donc il y a un siècle. Donc globalement, les prochaines auditions, comment tu les vois, toi ? Est-ce que tu penses que même ceux qui posent un peu problème, comme Tulsi Gabbard, par exemple, à la tête du renseignement, ou RFK Junior à la tête de la santé, est-ce qu'ils vont passer la barre d'après toi ? Et est-ce qu'on sera encore dans cette espèce de théâtre bien réglé ? Ou est-ce que tu penses que certains pourraient être rejetés ?
Écoute, moi, je pense qu'ils passeront. Je suis un petit peu plus dans le doute vis-à-vis de Kennedy que vis-à-vis de Tulsi Gabbard, mais moi, ce qui me frappe, c'est que, si tu veux, la différence quand même de ton et de contexte par rapport à 2017 et l'arrivée au pouvoir de Trump pour son premier mandat, on l'a beaucoup souligné, mais quand il arrive en 2017, il a un peu fait un hold-up sur le Parti républicain qui ne voulait pas de lui en tant que candidat, pas forcément de lui en tant que président. Et du coup, il a pris ce parti à la hussarde, mais le parti conserve une certaine distance et une certaine méfiance vis-à-vis de Donald Trump. Et là, évidemment, tout ça n'a plus rien à voir. Le Parti républicain, c'est devenu la chose de Donald Trump. Il est totalement acquis à sa cause. C'est plus le Parti républicain au sens où on en avait l'habitude ces dernières décennies. Et donc, c'est vraiment une machine de guerre totalement dédiée à l'agenda, aux priorités, à la personnalité et à la présidence de Donald Trump. Et donc, pour cette raison, je m'attends à ce que la discipline et la ferveur au sein du Parti républicain soient vraiment totalement présentes tout au long de ces auditions face à un camp démocrate qu'on sent bien aussi, et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on les sent un peu quand même, y compris à l'occasion de ces auditions, même si ils font le job en quelque sorte, mais on sent bien une forme de ils sont encore un peu sonnés, un peu désabusés. Et évidemment, tout ça se sent et s'entend dans cette période d'audition et de vote sur les postes clés du gouvernement de Trump.
Ouais, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, au-delà du Parti démocrate, c'est toute l'opposition, même de la société civile à Donald Trump, qui est complètement sonnée et sous le choc. Il y a 8 ans, quand il avait été investi, il y avait eu des grosses manifestations à Washington. Alors, il y en aura encore cette fois-ci, mais qui seront, d'après ce qu'on lit et ce qu'on entend, d'une bien moindre ampleur. Comme si, effectivement, les gens étaient encore sous le choc et avaient du mal à savoir comment s'organiser pour faire face à Donald Trump. Tu parlais de la soumission du Parti républicain. Il y a une décision qui a été prise aussi hier et qui est très révélatrice de ce que tu disais. Tu sais que depuis la mort de Jimmy Carter, tous les drapeaux sont en berne sur les bâtiments publics aux États-Unis. Enfin, ils sont descendus à mi-hauteur des mâts, y compris sur le Capitole. Trump s'en est plaint parce que ça veut dire que le jour de son investiture, eh ben, le drapeau ne sera pas levé au-dessus du Capitole. Et finalement, hier, Mike Johnson, le patron de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a dit que finalement, pour le moment de l'investiture, on va remettre les drapeaux tout en haut pour faire plaisir à Donald Trump. Donc je trouve ça assez révélateur de cette emprise dont tu parlais.
Exactement, c'est ça. Et puis moi, il y a un autre phénomène qui m'a beaucoup frappé ces derniers jours et ces dernières semaines, parallèlement à ce que dit et ce que fait le monde politique, c'est le côté business quand même. Avec l'avalanche de décisions prises par les plus grandes entreprises américaines qui sont de plusieurs natures. D'abord, le financement de l'investiture de Donald Trump et le financement de toutes les structures liées à Donald Trump. Je crois qu'on en est à plus de 200 millions de dollars reçus pour son investiture, plus de 500 millions de dollars pour financer tous les comités et les associations, etc., qui sont liés au trumpisme en général. C'est absolument colossal. Et puis, évidemment, toutes ces décisions prises par les grandes entreprises américaines. Alors, on pense évidemment à Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp et la prise de position de Mark Zuckerberg sur les mesures dites de diversité, d'équité et d'inclusion, le fait qu'il renonce au fact-checking, le fait qu'il nomme à son conseil d'administration un très proche de Donald Trump, Dana White, le patron de cette organisation UFC qui organise des combats d'arts martiaux libres télévisés avec grand succès. McDonald's renonce aussi aux mesures de cette nature-là, les mesures inclusives. Je crois que Walmart a fait la même chose également. On voit les grandes banques américaines quitter les coalitions mises en place pour coordonner leur lutte contre les empreintes carbone, notamment une organisation sous l'égide des Nations Unies. Bref, tout le monde sort le carnet de chèques et tout le monde s'aligne idéologiquement, si l'on peut dire, sur les valeurs de Donald Trump. Et donc, ça dépasse le cadre vraiment du paysage politique et le retournement des entreprises et la manière, voilà, l'enthousiasme avec lequel elles adhèrent non seulement à la cause, à l'agenda, mais aussi aux valeurs de la présidence Trump qui démarre. Tout ça étant évidemment très pragmatique, on s'est fait parce que c'est bon pour le business, mais c'est quand même très spectaculaire.
La seule entreprise d'ailleurs qui n'a pas renoncé à sa politique d'inclusion, c'est Apple, je crois. Ce qui n'a pas empêché Tim Cook quand même d'aller à Mar-a-Lago pour rencontrer Donald Trump.
Et de signer son chèque de 1 million de dollars pour l'inauguration, comme tout le monde.
Exactement. Alors, du coup, lundi, l'investiture, mais avant ça, il y aura une sorte de préchauffe, si on peut dire. Donald Trump va organiser un meeting dimanche à Washington. Il va réunir ses supporters. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ça ne se fait pas d'habitude, je crois. Hein. On a un peu l'impression que Trump a du mal à faire le deuil de la campagne. Il l'avait dit d'ailleurs, je crois, dans un de ses meetings à la fin de la campagne, que ça allait lui manquer cette ambiance de ses supporters chauffés à blanc dans des stades ou des grandes salles de sport. Et donc, il va remettre ça une dernière fois avant de s'installer à la Maison-Blanche.
Exactement. Et comme toujours, c'est le mariage du caractère de Trump et de son obsession de son succès personnel et populaire d'une part, et de l'autre d'un instinct politique, je trouve assez juste, parce que tu sais qu'il y a vraiment une sorte de malédiction du deuxième mandat pour les présidents américains, qui est que c'est un pays qui est en campagne électorale permanente, qui regarde toujours politiquement aussi devant, et donc une des difficultés pour le président américain réélu, c'est qu'il ne peut pas être candidat la fois d'après, il ne peut pas se représenter, et par conséquent, dès le premier jour où il s'installe dans le bureau ovale, on commence déjà à penser à la suite et à placer ses jetons sur qui pourrait être le prochain président des États-Unis. Et donc, en maintenant cette ambiance de campagne électorale permanente, il y a aussi dans l'idée de Trump qu'il ne faut surtout pas être un lame duck président, comme on dit aux États-Unis, le président canard boiteux, ou en tout cas pas le devenir rapidement. Et pour ça, il faut qu'il apporte la démonstration que eh bien le pays MAGA, hein, le pays Trump, est toujours derrière lui dans le culte de son succès et de sa personnalité. Et puis on se souvient bien sûr de cette obsession qu'il a pour la démonstration que les foules les plus nombreuses, elles sont acquises à sa cause. Il se souvient bien sûr de la polémique qui était née dès son investiture de 2016, où il avait prétendu, contre toute évidence, contre toute preuve photographique, que la foule qui était venue assister et saluer son investiture était plus importante que celle de Barack Obama, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas. Mais voilà, c'est aussi, je pense, avec cette idée de montrer que voilà, c'est lui le plus fort. D'ailleurs, tu as vu à quel point il a eu cette grande satisfaction pour cette deuxième victoire à son élection présidentielle, et il s'en est vanté très souvent, d'être arrivé en tête au nombre de voix, d'avoir gagné le vote populaire, ce qui n'était, on s'en souvient, pas le cas en 2016, puisque Hillary Clinton avait obtenu, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais entre 2 et 3 millions de voix de plus que lui au total, ce qui ne l'avait pas empêché de gagner, bien sûr, au bénéfice du système du collège électoral. Mais là, il a gagné sur toute la ligne, et encore une fois, c'est vraiment important pour lui de montrer que voilà, le peuple américain est derrière lui, en quelque sorte.
Alors, autre chose inhabituelle, cette fois sur la cérémonie en tant que telle, Donald Trump rompt avec la tradition. Il a invité des chefs d'État et de gouvernement étrangers. D'habitude, ça ne se fait pas. On préfère inviter des diplomates pour représenter les autres pays. Là, il y aura des dirigeants étrangers et Trump les a choisis avec soin. Il a envoyé des cartons d'invitation à des dirigeants populistes ou d'extrême droite. Il y aura Meloni, la chef du gouvernement italien. Il y a le Hongrois Viktor Orban, que Trump adore. Javier Milei, l'Argentin. Il va aussi inviter, je crois, l'ancien président brésilien, Bolsonaro, celui qu'on avait appelé le Trump des tropiques à l'époque. Alors, pas sûr qu'il vienne, Bolsonaro, parce qu'il est privé de passeport et il n'est pas sûr de pouvoir faire le déplacement, mais en tout cas, il est invité. Donc ce jour-là, le 20 janvier, il y aura aussi ce message qui sera adressé au monde à travers les invités que Trump a sélectionnés.
Exactement. Voilà un monde qu'il veut façonner à son idéologie. Alors chez nous, il y aura vraisemblablement Éric Zemmour, qui est le seul responsable politique français, semble-t-il avoir été invité. Tu sais aussi qu'il voulait faire un coup en invitant le président chinois Xi Jinping, mais ce dernier a décliné cette invitation et il sera représenté par un dignitaire venu de Pékin. Mais tu as raison, c'est l'un des exemples de plus de la rupture de Trump avec toutes les traditions. Il s'en moque, il fait les choses à sa manière. Et là, avec clairement la volonté de montrer qu'il n'est pas seulement le nouveau président des États-Unis, mais aussi, au fond, le leader d'un monde conservateur de droite qui est en pleine ascension dans les pays qui seront représentés sur place, mais pas seulement. Il veut vraiment montrer qu'il est, d'une certaine manière, à la tête d'une forme de coalition trumpiste. Et pour cela, effectivement, il rompt avec la tradition, avec ces invitations qui sont pas du tout dans les habitudes des Américains le jour de l'investiture.
Et puis, donc, comme le veut la tradition, là pour le coup, il va ensuite s'installer devant le bureau ovale pour signer les premiers décrets. Donc c'est toujours un moment très important parce que ça donne le ton de ce que seront les 4 prochaines années. Donc on attend des mesures sur les promesses phares de la campagne, à commencer bien sûr par l'immigration et puis des choses plus symboliques, mais très importantes politiquement. La grâce présidentielle, par exemple, qui pourrait être accordée aux émeutiers du Capitole. Tu disais tout à l'heure que c'est important pour Trump de garder le soutien de sa base MAGA. Et là, sur l'histoire du Capitole, il est vraiment attendu au tournant. Moi, j'ai rencontré des proches de personnes incarcérées. J'ai parlé aussi au téléphone avec un émeutier qui m'a appelé depuis sa cellule. Et clairement, tous attendent vraiment une grâce complète pour tous les condamnés, y compris pour ceux qui ont commis des violences contre les policiers. Donc si Trump ne le fait pas, il y aura beaucoup de déçus parmi ses soutiens.
Oui, alors deux remarques. La première, c'est que tu as raison, ce premier jour, il va être extrêmement spectaculaire. En tout cas, il l'entend comme tel. Il pourrait signer plusieurs dizaines, certains disent même jusqu'à une centaine de décrets, ce que les Américains appellent des executive orders, avec effectivement 3 sujets majeurs. L'immigration, tu l'as dit, avec la fermeture des frontières et peut-être l'engagement des premières expulsions. On sait que l'immigration, il l'a répété tout au long de la campagne, après sa victoire, ça reste pour lui le sujet majeur. Des décrets, bien entendu, sur la relance d'une exploitation massive de la production d'hydrocarbures aux États-Unis, une rupture avec l'administration Biden, bien sûr. Et puis enfin, tu en as parlé, bien sûr, une série de décisions qui concernent le monde de la justice. Et là, on verra jusqu'où il va, non seulement pour gracier, mais également pour sanctionner, pour se faire justice lui-même, etc. Deuxième remarque, il va se retrouver, et tu le disais, et on peut donner des exemples là encore, assez vite confronté à la réalité face aux promesses. Deux exemples, la guerre en Ukraine qu'il avait promis de résoudre dans l'espace de 24 heures. On voit bien que ce n'est pas le chemin qu'il a pris, bien sûr, même s'il a programmé désormais une rencontre avec Vladimir Poutine. On voit bien que ce n'est pas d'ici la fin de la semaine prochaine que le sujet sera réglé. Et donc ça sera une première promesse emblématique qui ne sera pas tenue, bien sûr, et ça, c'est important de le souligner. Et il y aura d'autres sujets sur lesquels il va se retrouver assez vite confronté à la réalité, bien sûr. Il va devoir délivrer, tu l'as dit, s'il ne gracie pas tout le monde alors que tout le monde l'attend, ça va être un vrai problème. S'il ne restitue pas de manière très concrète et très vite du pouvoir d'achat aux Américains, il a tellement promis de manière tellement emphatique et tellement voulu marquer le contraste avec une administration Biden décrite comme totalement impuissante et dépassée par les événements, que s'il ne fait pas bouger les choses très vite, évidemment, il s'expose à un mécontentement qui pourrait déboucher assez rapidement.
Merci beaucoup, Thierry.
Merci, Antoine.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver chaque semaine le Washington Briefing sur le site bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.